Chapitre 49. Disons juste où en étaient, à Rome, les différents personnages dont nous avons suivi la vie dans tous ses détails et qui vont prendre une part active dans la guerre civile. Jetons de la clarté dans les intérêts de chacun. Après la belle étude de notre cher Lamartine sur César, c'est le seul travail qui nous reste à faire. Voyons d'abord ce que faisait Cicéron au moment où se brouillèrent les cartes entre César et Pompée. Cicéron avait hérité du jeune Publius Crassus sa place au conseil des augures. Puis enfin, dans le partage des provinces, le sort lui ayant donné la Cilicie avec une armée de 12 000 fantassins et de 2 600 cavaliers, il s'embarqua pour sa province, comme on disait. Sa mission était de soumettre la Cappadoce au roi Ariobarzane. Il s'acquitta de cette mission sans avoir recours aux armes. Il mit cette fois encore en pratique son fameux axiome de « cedant arma togae ». Ce n'était pas chose facile. Les revers des Romains en face des Parthes poussaient les Cyliciens à la révolte. Les Romains pouvaient donc être vaincus. Mais ce qui étonna tout le monde, ce que les historiens constatent avec ébahissement, c'est que Cicéron ne voulut aucun présent des rois et dispensa la province des festins qu'elle donnait au gouverneur. Chaque jour, il invitait à sa table les Cyliciens les plus distingués et payait ses repas officiels sur les appointements qui lui étaient accordés par la République. Sa maison n'avait pas de portier, qui voulait le voir le voyait et était introduit sans même dire son nom. Nul ne le trouva jamais au lit, quoique les visites commençassent chez lui de bon matin. Il se levait à l'aube. Pendant toute la durée de son proconsulat, il ne fit point battre un seul homme de verge. Jamais, dans un moment de colère, il ne déchira la robe de celui qui lui inspirait cette colère. Jamais il ne dit d'injures. Jamais il n'ajouta les outrages aux amendes qu'il infligeait. Bien plus, s'étant aperçu que les deniers publics avaient été pillés par des concussionnaires, il fit venir ceux-ci devant lui et leur fit rendre gorge, sans même dire le nom de ceux qui restituaient les sommes les plus fortes, ne voulant pas dénoncer à la haine de leurs concitoyens des hommes qui ne s'étaient peut-être pas crus si coupables qu'ils l'étaient effectivement, en faisant ce que tout le monde faisait. Des brigands avaient établi leur domicile sur le mont Amanus et rançonné, pillé et tué les voyageurs. Il leur fit une guerre acharnée, les dispersa et fut proclamé impérator par ses soldats. Vous ne saviez pas cela, n'est-ce pas, cher lecteur, que Cicéron avait été proclamé général? C'est cependant un fait constaté par Plutarque. Il est vrai que Cicéron, en véritable homme d'esprit qu'il était, comprit que son titre d'orateur jetterait de l'ombre sur son titre d'impérator et n'abusa point de la couronne de laurier. Cependant, de temps en temps, le vaniteux reparaît. « Mon cher confrère, lui écrit l'orateur Cellius, envoyez-moi des panthères pour mes jeux. »« Impossible, lui répond Cicéron, il n'y a plus de panthères en Cilicie. Toutes se sont réfugiées en Carie, irritées d'être les seules à qui l'on fasse encore la guerre au milieu de la paix générale. » Bientôt, quittant son gouvernement, où la paix générale ne lui laissait rien à faire, il passa par Rhodes, où il resta quelque temps au milieu de ses anciens amis et de ses vieilles connaissances, et enfin il arriva à Rome, qu'il trouva toute chaude et toute fiévreuse, et dans cet état où sont les cités à la veille d'une guerre civile. À son arrivée, le Sénat voulut lui décerner le triomphe. Mais on se rappelle combien Cicéron tenait à être en bonne relation avec tout le monde. Il répondit au Sénat qu'il aurait plus de plaisir à suivre le char triomphal de César dès que l'on aurait fait un accommodement avec Pompée et lui qu'à triompher lui-même. Quant à Pompée, il regardait grandir César, mais ne paraissait pas s'inquiéter des proportions gigantesques auxquelles il arrivait. Il ne voyait dans son rival que le tribun factieux de Rome, le complice de Catilina, l'instigateur de Claudius. Il ne voyait pas César. Puis, revêtu du souverain pouvoir, comme il arrive aux hommes tout-puissants, il se faisait avec justice reprocher bon nombre d'abus. Il avait rendu des lois contre ceux qui achètent les suffrages ou captent les jugements. Ses lois étaient bonnes et portées contre les coupables des peines méritées. Scipion, son beau-père, fut accusé. Pompée fit venir chez lui ses 360 juges et les pria d'être favorables à l'accusé. De quoi il résulta que l'accusateur, voyant Scipion reconduit jusque chez lui par les 360 juges, se désista. Il avait défendu par une loi de louer les accusés lors des procès. Plancus, son ami, étant accusé, il se présenta lui-même pour le louer. Caton était au nombre des juges. La corruption générale ne modifiait pas celui-là. Il se boucha les oreilles avec ses deux mains. « Que faites-vous ? » lui demandèrent ses collègues. « Il ne me convient pas, répondit Caton, d'entendre louer un accusé contre la disposition des lois, surtout lorsqu'il est loué par celui qui les a faites. » Il s'ensuivit que Caton fut récusé par Plancus. Mais malgré la récusation de Caton, Plancus n'en fut pas moins condamné. Cette condamnation mit Pompée de si mauvaise humeur qu'à quelques jours de là, Hypséus, personnage consulaire, qui était accusé comme Plancus et comme Scipion, ayant attendu Pompée, au moment où il sortait du bain pour aller se mettre à table et s'étant jeté à ses genoux, « Laissez-moi tranquille, dit Pompée d'un ton bourru, car vous ne gagnerez rien à vos prières que de faire refroidir mon souper. » Sur ces entrefaites et dans un voyage qu'il fit à Naples, Pompée tomba gravement malade. Il guérit néanmoins, et sur le conseil du grec Praxagoras, les Napolitains firent à propos de sa guérison des sacrifices d'actions de grâce. Cet exemple fut suivi par les cités voisines de Naples, et ce zèle se communiqua tellement à toute l'Italie qu'il n'y eut point de ville, petite ou grande, qui ne célébra pendant plusieurs jours ses fêtes de convalescence. Puis, quand Pompée revint à Rome, les populations lui firent cortège, les députés allèrent au-devant de lui, le front couronné de fleurs, des banquets publics furent offerts, et il ne marchait, en entrant dans les cités, que sur des jonchées de lauriers et de fleurs. Il en résulta qu'en arrivant à Rome, Pompée, enivré de cette marche triomphante, se tourna avec mépris du côté de l'orage qui s'amoncelait vers l'Occident. Il douta encore bien moins de l'avenir quand on lui eut continué ses gouvernements pour 4 ans et qu'on l'eût autorisé à prendre dans le trésor public 1000 talents chaque année pour la solde et l'entretien des troupes. Mais aussi César, de son côté, pensa que l'avenir était arrivé pour lui et que, puisque l'on faisait toutes ces choses pour Pompée, on ne pouvait les lui refuser. Ses amis présentèrent sa requête en son absence. Ils demandèrent qu'en récompense des combats livrés par lui, de l'extension de l'Empire dont il avait porté à l'ouest les limites jusqu'à la grande mer extérieure, au nord jusqu'à la Grande-Bretagne et jusqu'au Rhin, on lui donna un second consulat et lui continua son gouvernement, afin qu'un successeur ne lui vînt point enlever la gloire et le fruit de tant de travaux, et que, commandant seul dans les lieux qu'il avait soumis, il jouit en paix des honneurs que ses exploits lui avaient mérités. La demande donna lieu à une grande discussion. Pompée parut étonné de cette seconde partie de la demande des amis de César. « J'ai, dit-il, des lettres de mon cher César qui me prient de lui faire donner un successeur afin qu'il soit déchargé des fatigues de cette guerre. Quant au consulat, ajouta-t-il, il me paraît juste qu'on lui permette de le demander, quoique absent. » Mais Caton était là. Caton, le grand opposant, le grand niveleur, disons le mot, le grand envieux. Caton s'opposa avec force à la proposition et exigea que César, réduit à l'état de simple particulier, après avoir posé les armes, vint en personne solliciter auprès de ses concitoyens la récompense de ses services. Pompée ne répliqua point. Il n'avait garde. Caton disait à César, « Viens te livrer sans armes à Pompée, c'est-à-dire à ton plus mortel ennemi. » En conséquence, et sur l'avis de Caton, appuyé par le silence de Pompée, le Sénat refusa à César la prolongation de ses gouvernements. Un des officiers de César se tenait à la porte du Sénat et entendit le refus. « Bon, dit-il, frappant sur la garde de son épée, celle-ci les lui donnera. »